Salut à toi l'Occitan. Je suis Lily Oz et je te souhaite la bienvenue dans les mystères d'Occitanie. Aujourd'hui, je t'emmène dans une commune légendaire des Hautes-Pyrénées, connue dans le monde entier pour ses guérisons miraculeuses. Tous les ans, elle attire plusieurs millions de visiteurs. Pour la plupart, ce sont des pèlerins empruntant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va à Lourdes. Depuis que la Vierge y est apparue en 1858, plus de 7000 guérisons spontanées y ont eu lieu, parmi lesquelles 70 miracles officiellement reconnus par le Vatican. Mais est-ce vraiment la Vierge qui accomplit tous ces miracles? Est-ce vraiment elle qui est apparue là-bas? Je te dis tout dans ce nouvel épisode des Mystères d'Occitanie. Le 11 février 1958, Bernadette Soubirou, alors âgée de 14 ans, collecte du bois mort sur les berges du gave de Pau quand un bruit attire son attention. Elle aperçoit alors une très belle enfant vêtue de blanc qui se tient à l'entrée d'une grotte, la grotte de Massabielle. L'enfant invite Bernadette à s'approcher, mais elle prend peur et elle s'enfuit. 3 jours plus tard, Bernadette décide de retourner à la grotte, cette fois accompagnée par une douzaine d'amis. À nouveau, elle aperçoit la belle enfant vêtue de blanc, qu'elle désigne cette fois sous le nom de Aquero, qui signifie « cela » en occitan. Cependant, Bernadette est la seule à voir cette apparition, alors elle s'interroge. Serait-ce le diable qui lui joue un tour? Bernadette doute. Alors, durant 2 semaines, elle se rend tous les jours à la grotte, à chaque fois accompagnée de plus en plus d'amis et de voisins. C'est bientôt plusieurs centaines de personnes qui l'accompagnent, parmi lesquelles un commissaire de police qui lui demande s'il s'agit de la Vierge Marie. Bernadette répond qu'elle ne sait pas, mais 3 jours plus tard, devant plus de 300 témoins, elle se met à genoux pour baiser le sol et elle commence à creuser. C'est alors qu'une source jaillit. Bernadette recueille l'eau boueuse dans ses mains et se met à la boire avant de s'en enduire entièrement le visage. Certains la croient folle, mais d'autres se mettent immédiatement à remplir des bouteilles. Alors les autorités s'inquiètent. À la 12e apparition, une jeune femme retrouve l'usage de ses doigts paralysés, juste après qu'elle ait plongé sa main dans la source. C'est le premier miracle de Lourdes. Lors de sa 16e apparition, la silhouette mystérieuse révèle enfin son identité à la jeune Bernadette. « Que soy era Immaculada Concepción. » Je suis l'Immaculée Conception. Dès lors, tout le monde en est convaincu, c'est la Vierge Marie qui est apparue à Bernadette durant tout ce temps. Mais en est-on certain?
Ah mais ben non, mais clairement pas. Bernadette, elle a dit que c'est une enfant qui est apparue, mais la Vierge Marie, c'est pas une enfant.
Ouais, c'est vrai, mais peut-être qu'elle a préféré apparaître sous la forme d'un enfant. Simplement parce que ça peut faire peur de voir surgir une femme au milieu de nulle part, surtout pour une jeune fille de 14 ans. Hein.
Ouais, mais ça voudrait dire que l'entité, elle peut prendre la forme qu'elle veut, auquel cas... Elle peut aussi bien faire croire qu'elle est la Vierge. Je veux dire, le diable aussi, il change d'apparence comme il veut, hein, et lui, il peut prendre la forme d'un ange.
Ouais, c'est vrai. Mais le diable, il t'invite pas à creuser le sol pour y trouver une source miraculeuse, hein.
Ah mais ça, on sait pas. Peut-être qu'il avait intérêt à ce qu'il y ait tout un business qui se crée à Lourdes.
Ouais, peut-être. Mais à ce compte-là, ça pourrait aussi bien être un extraterrestre, hein. Ou alors, c'est la conscience supérieure de Bernadette qui a choisi elle-même la forme de l'entité. Parce que tu sais, en réalité, ce sont nos yeux et notre cerveau qui créent les formes. On le comprend mieux aujourd'hui grâce aux neurosciences et à la physique quantique. La vraie réalité n'a rien à voir avec ce qu'on en perçoit.
Ouais, mais comment ça, la vraie réalité, elle a rien à voir avec ce qu'on perçoit? Là, ton pull, il est rouge, et ça, c'est la vraie réalité.
Ouais, sauf que les couleurs, en réalité, c'est des fréquences. La lumière, elle oscille sur des longueurs d'onde différentes, et c'est ton cerveau qui les interprète en leur attribuant une couleur. Et c'est la même chose hein, pour l'ensemble de ce qu'on appelle la réalité. Tiens, là par exemple, tu vois une table. T'as l'impression qu'elle est pleine de matière, alors qu'en vérité, elle est surtout constituée de vide. Comme toi d'ailleurs. Et puis, quand tu poses la main dessus, tu crois que tu la touches, alors qu'en fait, tu la touches pas. En réalité, c'est les cellules réceptrices de ta main qui captent les informations émises par les atomes de la table et ensuite, elles sont interprétées par ton cerveau. Parce que si les atomes de ta main y touchaient vraiment les atomes de la table, eh ben ça produirait un immense choc, une explosion atomique, comme dans les centrales nucléaires.
Ah bon? Non mais trop bizarre. Mais pourquoi tu dis que moi aussi je suis constituée de vide? C'est pas très sympa ça.
Non mais toi comme nous tous, comme chaque chose. Bon, écoute, retiens juste que la vraie réalité, elle échappe à notre perception et à notre compréhension. Dans le cas de l'apparition de la Vierge, ou quand il s'agit d'avoir des visions du monde invisible, eh bien, il faut comprendre que ton cerveau, il perçoit des informations qui ne sont pas perceptibles par tes cinq sens. Sauf que pour comprendre cette information, le cerveau, il va communiquer avec toi par l'intermédiaire de symboles ou d'images que tu peux comprendre. Donc si Bernadette, elle avait été indienne, eh bien, ça ne serait pas la Vierge Marie qui lui serait apparue, mais une déesse indienne. Et l'essentiel dans tout ça, eh bien, c'est juste que l'information, elle a été bien reçue par rapport au fait qu'il existe à cet endroit une source aux vertus bienfaitrices.
Ah bon ? Mais alors tu veux dire que c'est la source elle-même qui a communiqué avec Bernadette en prenant l'apparence de la Vierge ?
Eh bien, pourquoi pas ? Il y a un chercheur qui s'appelle Romuald Le Terrier. C'est un ethnobotaniste. Il s'est rendu dans des tribus en Amazonie et il a demandé à ces peuples comment ils avaient obtenu la connaissance des plantes. Eh bien, ils lui ont répondu que c'est les plantes elles-mêmes qui leur ont dit, au cours de leur transe chamanique, quels sont leurs pouvoirs et quelles maladies elles soignent. Il a fait une conférence à ce sujet. Tu peux la trouver sur Internet. Elle s'appelle « Rendre le réel aussi malléable qu'un rêve ». Oh, va l'écouter, hein. C'est fascinant.
Ouais, ok. Ok. Mais bon, est-ce que c'est pas l'eau de Lourdes elle-même qui guérit les gens, tout simplement ?
C'est vrai que sur les 70 miracles reconnus par l'Église, 49 sont directement liés à l'eau de la source. D'ailleurs, des études ont été faites concernant les propriétés de cette eau. Et on n'a rien pu prouver du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une eau particulièrement pure. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun minéraux dedans et que du coup, elle possède une résistivité particulièrement élevée.
Hein, une résistie quoi ?
La résistivité. C'est le contraire de la conductivité. Ça veut dire que l'eau de Lourdes, elle est peu conductrice d'électricité. En fait, plus une eau, elle est chargée en minéraux, plus elle est conductive. Or, dans ton corps, il y a de l'électricité. Et si tu mets de l'eau superconductive dans ton corps, eh ben, ça peut potentiellement générer des courts-circuits. Et c'est pour ça qu'on recommande de boire essentiellement de l'eau avec une faible conductivité, et donc une forte résistivité. Celle de Lourdes, elle a une résistivité de plus de 30 000 ohms. C'est énorme. Par comparaison, l'eau de Volvic, elle a une résistivité d'environ 5000 ohms.
Ah ouais ? Mais alors faudrait boire de l'eau de Lourdes tous les jours ?
Non mais je te rassure, il n'y a pas que l'eau de Lourdes qui a une résistivité exceptionnelle. L'eau de Montroucous ou de Montcalm, pour ne citer qu'elle, elles aussi, elles ont une résistivité de 30 000 ohms. D'une façon générale, les eaux de sources de montagne qui coulent en extérieur sont beaucoup moins minéralisées que les autres.
Ok. Mais alors, quand ma tante Janine, elle déminéralise son eau avec une grosse machine, en fait, ça veut dire qu'elle augmente la résistivité de l'eau.
Oui, mais bon, ça en fait toujours pas une eau miraculeuse. Hein. Et puis, il faut dire que l'eau de Lourdes, elle ne guérit pas tout le monde non plus. Donc, il y a forcément autre chose qui rentre en ligne de compte. Comme disait Bernadette, l'eau elle-même n'est rien. Il faut avoir la foi.
Ouais, donc en fait, on en revient à l'effet placebo. Ou alors c'est l'effet des prières sur l'eau elle-même. Il paraît que l'eau, elle a une mémoire et qu'elle s'imprègne des vibrations. Ça, c'est un japonais qui s'appelle Masaru Emoto qui a démontré ça.
Oui, je connais ce mec. Sauf qu'il n'a rien prouvé du tout. En fait, il a fait un projet artistique dans lequel il a photographié des gouttes d'eau cristallisées après leur avoir adressé des paroles d'amour ou des paroles agressives. Ensuite, il a exposé ses photos en indiquant quel mot il avait prononcé avant de cristalliser la goutte. Et selon lui, les cristaux qui ont reçu de belles paroles sont beaux et harmonieux, là où ceux qui ont reçu des insultes sont complètement informes. Sauf que sa démarche, elle n'a rien de scientifique. Et ses détracteurs disent qu'il a potentiellement écarté tous les cristaux qui ne rentraient pas dans le cadre de sa démonstration. Il n'aurait pas montré les cristaux difformes auxquels il aurait pourtant dit des mots d'amour, ni les cristaux harmonieux qui avaient pourtant été insultés. D'ailleurs, l'expérience, elle n'a jamais été reproduite en laboratoire. Donc, c'est pas super fiable.
Mais si, l'expérience, elle a été reproduite. Ils ont même fait le test avec du riz.
Ouais, non, mais j'ai vu ça aussi. Il y a des gens qui se sont inspirés de ses travaux et qui ont mis du riz cuit dans deux bocaux. Sur l'un, ils ont écrit « je t'aime » et sur l'autre, ils ont écrit « je te hais ».
Oui, et le riz qui est dans le pot avec écrit « je te hais », eh ben, il pourrit beaucoup plus vite que l'autre.
Ouais, enfin, soi-disant. Mais bon, là encore, il n'y a rien de scientifique, donc faudrait vérifier quand même. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on sait de manière sûre, c'est que le stress, la colère et les énergies négatives, elles sont super contagieuses et qu'elles ont clairement un impact sur notre santé, comme la joie, la paix et l'amour. En fait, il a été démontré que si tu passes ta vie à côtoyer des gens qui se plaignent tout le temps, eh ben ta santé, elle est moins bonne et ton espérance de vie aussi. Mais bon, c'est logique, puisque le premier facteur de maladie et donc de mort, eh ben c'est le stress.
Ok, eh ben tu sais quoi, je vais faire l'expérience moi-même chez moi. Et comme mon ex, il passe son temps à se plaindre et à me stresser, eh ben la prochaine fois qu'il vient manger à la maison, je lui ferai du riz. Et je l'insulterai avant mon riz. Et je verrai si ça le rend malade.
Ah ouais ? Ah non mais carrément ! Mais c'est de la magie noire ça, hein ? Sinon tu peux aussi tout simplement lui dire ce que tu ressens. C'est important ça, hein, de pas garder les mauvaises émotions en toi. De la colère ou du ressentiment. Parce que ça aussi, ça rend malade. Après, si tu peux exprimer tes émotions sans violenter les autres, c'est mieux. Tiens, tu pourrais l'insulter joyeusement en chantant, par exemple. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Ordure ». T'as qu'à lui envoyer, ça pourra te faire du bien sans trop lui faire de mal. Tiens, on l'écoute.
Tous ces mots d'amour oubliés au bout de 10 jours et toutes ces paroles. Une grosse enflure. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Oh, oh mon amour, t'as beau avoir une belle monture. Tu m'as trahi et t'as tout pris. La paix de mon esprit. À mon amour, qui est en fait une grosse enflure.
Occitan, tu l'as compris, la réalité du monde et de l'homme est plus complexe qu'il n'y paraît. Précisément, la réalité est avant tout vibratoire. Et si tu vibres au diapason d'émotions négatives, tu auras plus de chances de déclarer des maladies ou de rendre malades les autres. Mais ce n'est pas tout. Et la médecine commence à peine à le comprendre, les dérèglements psychocorporels qu'on éprouve sont souvent liés à des dérèglements dans notre champ électromagnétique. On a compris ça quand on a commencé à envoyer les hommes dans l'espace. Parce qu'avec l'absence de gravité, eh ben les médicaments ils n'ont pas le même pouvoir d'action sur le corps. Alors on a réfléchi à une autre façon de soigner les maladies. On s'est intéressé à la manière dont l'électricité circule dans nos corps et on a même créé des machines capables de mesurer la bio-impédance.
La quoi ? Oh non mais Lily, il y a trop de mots compliqués dans tes chroniques. Hein.
La bio-impédance, c'est la capacité de résistance de tes tissus biologiques. On la mesure en envoyant des courants alternatifs à travers ton corps. C'est assez dingue, hein, tout ce que ça permet de savoir sur ton état de santé, et même sur les maladies potentielles que tu pourras développer.
Ah bon ? Mais ça existe ça ?
Bah oui, ça existe. Mais pour le moment, ça s'est pas encore trop démocratisé. Il y a des centres qui proposent ce genre de service, généralement des centres de santé holistique. Tu mets tes mains et tes pieds sur des plaques en cuivre, on te branche quelques capteurs ici ou là, et on t'envoie du courant pendant une trentaine de secondes.
Quoi ? On t'électrocute ?
Non mais c'est des courants qui sont très faibles, tu les sens même pas passer. Mais ce qui est dingue, c'est qu'après ça, on te sort un diagnostic de plusieurs pages indiquant quels sont les soins qui sont adaptés à ton système et ceux qui ne le sont pas. Ça te dit aussi les aliments que tu tolères et ceux que tu devrais éviter. Ça te dit même ta tolérance au stress, ta tendance à l'anxiété, ton niveau d'empathie ou même le niveau de ton intelligence émotionnelle.
Ah bon ? Mais c'est révolutionnaire !
Bah ouais, et c'est pour ça sans doute que c'est pas encore très répandu. Parce que si on se met à faire de la médecine préventive en France, et qu'en plus on commence à se soigner autrement qu'avec des médicaments, ça risque de remettre en cause la suprématie de l'industrie pharmaceutique.
Ah là là, non mais qu'est-ce qu'on dit, Lily ? Non mais c'est vrai, surtout qu'en France, on est quand même le premier pays au monde en ce qui concerne la consommation de médicaments.
Ouais, mais tu sais, on peut pas arrêter le progrès. Et déjà aujourd'hui, dans certains hôpitaux, on commence à guérir les gens avec des fréquences lumineuses, comme dans la chromothérapie, par exemple.
La chromothérapie ?
Ouais, c'est une approche qui vise à rééquilibrer ton corps et ton esprit en t'exposant à certaines couleurs. Elle peut soigner tes insomnies ou au contraire te redonner de l'énergie, faire baisser ta tension, diminuer ton anxiété ou renforcer ton système immunitaire. Tout dépend de tes besoins. En réalité, la chromothérapie, elle existe depuis l'Antiquité. Ça fait des siècles que les Égyptiens et les Chinois y s'en servent pour établir des diagnostics ou traiter les maladies. Tiens, Léonard de Vinci, à son époque, il affirmait déjà que la puissance de la méditation est multipliée par 10 sous l'effet de la couleur violette, une couleur qui est particulièrement présente dans les vitraux des églises. Et depuis, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet. En 1903, le médecin danois Niels Riberg Finsen a même décroché le prix Nobel de médecine pour avoir utilisé de la lumière blanche dans le traitement des pathologies du cerveau. En 1920, le docteur indien Dinsha Gadiali, il a écrit une encyclopédie dans laquelle il explique comment soigner plus de 300 maladies grâce aux couleurs. Et puis, tu sais, il n'y a pas que la lumière qui émet des fréquences, il y a le son. Et personnellement, je crois que la vraie révolution, elle viendra de là.
Ah ouais, mais comment ça ?
Eh ben, il y a 10 ans, le chercheur Anthony Holland et son équipe se sont mis en tête de guérir le cancer grâce aux fréquences de résonance.
Ah, la fréquence de résonance, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas comme quand la castafiore, elle chante et que ça fait exploser tous les verres.
Eh ben, exactement. La fréquence de résonance, c'est la fréquence à laquelle les matériaux sont sensibles. Et les cellules cancéreuses, eh ben, elles ont leur propre fréquence de résonance. Et Anthony Holland et son équipe, ils ont fait une étude sur les souris atteintes de cancer. Ils les ont exposées à des fréquences sonores jusqu'à ce qu'ils trouvent la fréquence exacte qui détruit les cellules malades. Et ils ont trouvé. Ils ont guéri les souris en moins de temps qu'il n'en faut en les exposant à cette fréquence.
Ah ouais, mais c'est incroyable! Mais on va faire ça sur les humains?
Ah mais on espère bien. Sauf que pour le moment, on ne le fait pas encore. Ça fait 10 ans qu'on a fait cette découverte, mais c'était sur des souris. Et puis tu sais, d'ici là que ce soit validé sur l'homme, on aura le temps de vendre encore pas mal de chimiothérapie. Quand on voit ce que ça coûte et ce que ça rapporte... C'est comme les recherches de Paul Stamets, un mycologue qui a découvert un champignon incroyable qui sert à la fois d'antibiotique, d'engrais naturels et de biocarburant. Lui aussi, il a démontré l'efficacité de ce champignon il y a plus de 10 ans et on en est encore à nous gaver de pétrole et de pesticides. Tu penses bien, Paul Stamets, il te propose de cultiver toi-même le champignon chez toi, gratuitement. Et il en coûtera pas plus cher quand il s'agira de guérir les gens en les exposant à des fréquences lumineuses ou sonores. L'avenir, mon ami, tu sais, c'est les fameux medbeds qu'on voit dans les films de science-fiction.
Oh waouh, les medbeds. Genre, tu t'allonges dans un lit médical, ça scanne ton corps, ça identifie tes maladies et ça te guérit avec pile les bonnes fréquences pour toi.
Exactement. Bon, d'ici là que le futur il arrive, je t'invite à aller écouter les conférences de ces chercheurs sur YouTube. Tu tapes « Conférence TED Paul Stamets ». Pour le champignon, et conférence TED, Anthony Holland pour le cancer. N'oublie pas non plus celle de Romuald Le Terrier pour te rappeler que la réalité ressemble bien plus à un rêve qu'on ne le croit. Tu verras, c'est incroyable.
Ah ouais, carrément, je vais aller faire ça. Et je pourrai toujours écouter le podcast de ta chronique si jamais j'ai besoin de retrouver les références.
Exactement. Tu vas sur le site de Radio Lingodoc Narbonne, dans la section podcast. Tu cliques sur l'émission Les Mystères d'Occitanie et hop, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Et puis, retrouve-nous tous les mercredis et samedis pour les prochains numéros des Mystères d'Occitanie. Adicias, l'ami occitan.